السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مي شي فرير ان اسلام، الله سبحانه وتعالى ا اونوري سيت كوميونيتي، الله سبحانه وتعالى ا غراتيفيي سيت امه، لا امه دي بروفيت محمد مصطفى عليه الصلاه والسلام، ان لو اكوردون دي بيريود دو لاني او شاك مسلمان او شاك ادوراتور د الله سبحانه وتعالى a la possibilité de se rapprocher de lui d'une telle façon que jamais il n'aurait pu le faire en cumulant des actes d'adoration ordinaires durant toute sa vie. Le dernier moment fort qu'on a vécu ensemble, le dernier grand moment que la Oumma a vécu il y a deux mois, il y a un mois et demi, c'était le mois de Ramadan, avec tout ce qu'on a pu, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été rapporté sur les vertus du suhur, du iftar, du salat du tarawih, du jeûne, et des actions qui sont propres au mois de Ramadan. Nous sommes tous conscients de ce qu'Allah Azza wa Jal a accordé à cette Oumma durant cette période. C'est une faveur qui est en relation avec le temps. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala peut accorder des faveurs à la Oumma par la prescription de certains ibadah, certains actes d'adoration qui comportent dans Majmou', c'est un acte d'adoration, un ibadah, qui comporte multiples facettes, multiples actes d'adoration dans ce ibadah, et qui propulse le mu'min, qui propulse le musulman à un degré de spiritualité, à un degré de rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme jamais il n'aurait pu le faire, comme on a dit pour le mois de Ramadan, comme jamais il n'aurait pu le faire en cumulant n'importe quelle autre action. Et parmi ces actions-là, on pourrait dire que l'action qui se démarque, l'action qui se démarque du lot de tous les ibadas, c'est cette période exceptionnelle, cette période magnifique que la Oumma va vivre d'ici un mois durant le mois de Dhul-Hijjah. Alors à travers le mois de Dhul-Hijjah, il y a trois paramètres. Il y a deux paramètres qui concernent les personnes qui ne vont pas au pèlerinage. C'est les vertus des Ashara Dhul-Hijjah, des 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Le deuxième paramètre concerne également les pauvres personnes qui ne peuvent aller au Hajj, c'est Al-Udhiya. En compensation, Allah nous permet de faire d'autres actions. Les actions des 10 premiers jours sont multipliées, il y aura peut-être d'autres occasions d'en parler. Et le Udhiya, ce qu'on appelle communément la réunion le Qurbani, c'est une action qui sera bientôt abordée dans les prochains vendredis. Et là aussi, il y a des récompenses spécifiques à cette action. Le troisième paramètre, c'est le plus important. C'est celui qui construit un pilier de la vie du musulman. On a tous compris qu'on parle de l'accomplissement du pèlerinage, l'accomplissement du hajj, qui fait partie des cinq piliers de l'islam. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Bunyal insanu, bunyal islamu ala khams », l'islam est construit sur cinq piliers, shahadat wa la ilaha illallah, le hadith très connu, l'attestation de foi, la zakat, la salat, le ramadan, et l'accomplissement du pèlerinage. Alors mes chers frères en islam, nous devons tous, et je dis bien tous, avec un grand T, prendre conscience de l'importance de cette action. La plupart du temps, les vendredis qui précèdent les départs des pèlerins, il est d'usage d'aborder le thème du Hajj. Mais on peut se dire que quel intérêt d'aborder le pèlerinage à une semaine du départ alors que les inscriptions sont closes depuis le mois de Ramadan. Il aurait fallu peut-être l'aborder bien avant. Le soir retenir, à partir avant le mois de Ramadan, on parlera du Hajj. Mais il est quand même stratégique de parler du Hajj, même s'il n'y a plus personne qui peut encore s'inscrire pour y aller. Pour trois raisons. Premièrement, pour celui qui va y aller, les chanceux, sur 100 personnes, il y a peut-être 7, 8 ou une dizaine, sachant qu'il y a 180 pèlerins de la Réunion qui vont aller cette année, Inch'Allah, il y a un certain pourcentage d'un masjid qui va aller au Hajj. Donc le discours s'adresse, pas uniquement à eux, mais entre autres à ces personnes. Entre autres à ces personnes, pour qu'ils prennent conscience de l'importance de l'action dans laquelle ils se sont engagés. Le discours est orienté également vers les personnes qui ont fait le hajj une fois de leur vie. Le discours s'adresse également aux personnes qui ont fait le hajj de leur vie, le faraz. Et ils sont persuadés que le devoir était accompli. C'est le cas. Quelqu'un qui a fait le hajj une fois dans sa vie, il a accompli le pilier de l'islam. Mais il n'y a personne qui se dit que j'ai fait le hajj, c'est amplement suffisant. Ou comme certains trouvent des excuses un peu au ras des pâquerettes, du style « j'ai fait le hajj, maintenant je laisse la place aux autres ». C'est comme si moi je n'y vais pas, quelqu'un en Indonésie il va aller à ma place. C'est pas comme ça que les choses se passent. Il y a que la personne qui a fait une seule fois, il se dit que bon, c'est amplement suffisant, que la personne prenne conscience que attention, il y a des choses énormes à gagner. Il y a des vertus exceptionnelles à gagner dans le hajj que je ne pourrai jamais cumuler en 20 ou 30 ou en 40 ans de ibada en restant chez moi. Et enfin, le discours s'adresse également aux personnes, hein, bien sûr, qui n'ont jamais fait le hajj, mimbab et targhib, pour inciter les personnes qui n'ont pas pu le faire ou qui n'ont pas ressenti le besoin, qui n'ont pas pris conscience plutôt de l'importance de ce pilier d'islam, une prise de conscience que attention, sans ce pilier, votre religion n'est pas mustaqim. Sans ce pilier, la foi ne peut pas réellement s'installer dans les cœurs, parce que ce iman, cet islam, se repose sur 5 branches. Et s'il manque une de ces piliers, une de ces branches, le islam, le iman n'est pas réellement posé dans le cœur du musulman. Et également, accessoirement, on pourrait dire, le discours est également à l'attention des personnes qui ont cette chance inouïe d'y aller très souvent, de faire très souvent le hajj, si pour pas dire tous les ans, mais qu'on prenne conscience que c'est une invitation exceptionnelle de la part d'Allah Azzawajal, que jamais ce voyage ne devienne une routine ou un voyage d'agrément, qu'on prenne bien conscience qu'est-ce qu'Allah nous accorde à travers ce hajj. Alors, si on devait parler des vertus du hajj, alors on ne terminera jamais tellement, c'est une action, comme on a dit, qui se démarque. Retenez l'adjectif exceptionnel. Le hajj est exceptionnel, tellement fort, tellement magique, qu'aucune action, aucun ibadah ne pourra procurer à un musulman ce que le hajj va le procurer. Une fois, un sahaba avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ya Rasulallah, ayyul a'mali afdal ?» Sahaba du prophète d'Allah, quelle est la meilleure des actions? Et le terme afdal en arabe, on appelle ça un superlatif, c'est-à-dire quelque chose qui est au-dessus de tout. Le sahaba, il veut connaître quelle est la chose la plus gigantesque, la plus magique, la chose qui rapprochera le plus le musulman d'Allah subhanahu wa ta'ala. Immédiatement, le prophète sallam, bien sûr, il cite la foi, parce qu'il n'y a aucune action qui ne comptera sans iman ou billahi wa rasuli. Le sahaba dit, thumma madha, au prophète d'Allah, après la foi, quelle est la meilleure des actions? Le prophète il dit sans hésiter, hajjun mabrurun, rawahu al-Bukhari muslim. Le hajj qui a été agréé, le hajj qui a été accepté par Allah. Ça nous fait comprendre que cette action-là, elle est exceptionnelle. Cette action-là, elle est incomparable. Jamais une action ne pourra nous procurer autant de hasana, de vertu que le hajj. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit que la foi en Allah, ça c'est la base. Ensuite, un hajj qui aura été accepté par Allah azza wa jal, tafdhulu sa'ira al-a'mal. Le hajj avec le iman, ces actions-là dépassent sa'ir. Et quand on dit sa'ir, c'est tout le reste. Mettez zakat, mettez lecture de Coran, mettez dhikrullah, mettez tous les ibadats d'un côté et mettez l'iman avec le hajj d'un côté. Le prophète dit cela dépasse sa'ir al-a'mal, kama bayna matla'i ash-shams ila maghribiha, tout comme il y a la distance entre le lever et le coucher du soleil. Métaphore pour qu'on comprenne bien que c'est incomparable. On ne compare pas le lever du soleil avec le coucher du soleil. Ce sont les deux choses les plus distantes de la journée. Pareil, hajj d'un côté, tous les amal imaginables d'un côté, ce n'est pas comparable. Tellement le hajj est quelque chose qui est au-dessus du lot. Le hajj, c'est exceptionnel. Et pourquoi ce hajj est exceptionnel? Wallah, il y a tellement de raisons. Si on se focalisait uniquement sur le fait que le hajj absout, le hajj fait disparaître les péchés, le prophète alayhi salatu wasalam dit hujju, ô musulmans, accomplissez le hajj. Fainal hajja, car le hajj lave al-dhunoub, le hajj élimine les péchés comme l'eau élimine les impuretés. Et on connaît ce hadith, hein, qui est un peu plus précis, un peu plus détaillé, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique comment, en détail, chaque geste, chaque seconde passée par le pèlerin, on ne dit pas chaque étape, je ne parle pas de Mina, Arafat, Muzdalifa, non, chaque moment passé par le pèlerin, c'est un moment qui le rapproche d'Allah, c'est un moment qui lui permet de voir ses actions, ses péchés effacés, et c'est un moment qui lui permet de voir son degré augmenté. Le prophète alayhi salatu wasalam dit le hadith ibn Umar radiallahu anhuma, ma yarfa'u ibilul hajj rijla, lorsque le pèlerin est sur sa monture, là la monture qui est cité dans ce hadith, c'est le chameau. Mais par analogie, on va comparer avec n'importe quelle monture à toutes les époques. Lorsque la monture lève une patte, وَلَا يَضَعُ يَدًا إِلَّا Et il le repose sa patte. إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَوْ حَسَنَ Allah écrit. Allah inscrit des bonnes actions pour ce pèlerin. Ou alors Allah Azza wa Jal efface le péché de ce pèlerin. Ou alors Allah Subhanahu wa Ta'ala يَرْفَعُ بِهَا دَرَجَ Allah Ta'ala élève le degré de ce pèlerin. Alors là, on ne parle pas de l'ensemble du Hajj. Comme on a dit, on parle de chaque seconde du Hajj. Alors imaginez ce musulman qui est à Makkah, qui vient de prendre son bus. De l'hôtel, il se rend à Mina. On sait que c'est pas simple. Avec les embouteillages, avec 4 millions de personnes, cette année peut-être plus encore. Chaque seconde qu'on va passer dans le bus en attendant d'arriver à Mina, ou quand on quitte, c'est l'étape la plus difficile, quand on quitte Arafat pour se rendre à Muzdalifa, c'est une distance que on peut faire normalement en 10 minutes en voiture, mais qui durant le Hajj peut prendre 4 heures, voire 5 heures de temps. Mais ces moments difficiles, ces moments où on patiente, yani avec les limites qu'on a, ben toutes ces secondes passées dans l'attente, ce sont là des moments, chaque fois que la roue, il faut penser à ça, chaque fois que la roue du bus est en train de tourner, Allah inscrit des bonnes actions, Allah efface les péchés du musulman, et Allah augmente le daraja, le degré de ce mu'min. Tout ça c'est pour nous faire comprendre, mes chers frères, que le hajj c'est quelque chose d'exceptionnel. Et le hadith phare, le hadith de référence, qui nous fait bien comprendre que le pèlerin, lorsqu'il retourne de son hajj, alors il n'a plus de péché. C'est la métaphore la plus complète, la plus adéquate que le prophète alayhi salatu wa salam a pu utiliser, celui à qui Allah avait donné les termes, al-jawami' al-kalim, les termes les plus expressifs lorsque le prophète dit que man hajja falam yarfuth وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Que ce pèlerin qui fait son hajj, qui le fait correctement, sans faire des erreurs, sans être grossier, يعني, il fait un hajj comme Allah le demande. Alors, رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ C'est un musulman. C'est un pèlerin qui retourne dans son pays exactement comme un nouveau-né, comme un bébé qui vient de naître. La métaphore, elle est puissante, c'est-à-dire comme un enfant qui vient de naître. À aucun moment on pensa que c'est un bébé qui a déjà du nifaq dans son cœur, oui, qui a déjà fait des là, wallah. C'est un nouveau-né, ma'soum, innocent. Alors, les ulama, rahimahumullah, ils expliquent que, comme on l'a dit tout à l'heure, à travers toutes les facettes du hajj, à travers toutes les actions qui sont intrinsèques au hajj, la salat à Makkah, la salat à Mina, les du'as de Arafat, etc., tout ça va augmenter le iman du musulman et va faire disparaître ses péchés. Mais vous savez qu'en général, même durant le mois de Ramadan, quand on parle de l'absolution des péchés, les ulama disent qu'on parle toujours des petits péchés. Mais les grands péchés nécessitent un tawbatun nasuha, un repentir sincère avec les trois conditions. La première condition, c'est le regret des péchés qui ont été accomplis, et il y a le nia sincère d'arrêter immédiatement le péché, et faire le nia de ne plus jamais recommencer le péché et détester ce péché. Mais cette condition de tawbatun nasuha, absolument qu'elle sera réunie durant le wukuf à Arafat. Lorsqu'un musulman il est à Arafat, le jour du 9e de Dhul-Hijjah, c'est clair, il n'y a pas le moindre doute que le tawbah qu'il va demander lors du wukuf à Arafat, ce ne sera pas le tawbah qu'il va demander après salat al-dhuhr à sa maison. Jamais de la vie. Quand quelqu'un il est présent à Arafat, c'est sûr que le dua, le istighfar qui sort de son cœur, c'est un istighfar qui sera sincère. Et c'est un moment où il va voir des millions de gens qui sont comme lui avec le ihram, qui sont en train de pleurer, qui sont en train de demander à Allah le pardon de leurs péchés. C'est sûr qu'il y aura la sincérité qui va imprégner le cœur de ce pèlerin et qu'il va regretter chaque péché qu'il va citer dans son istighfar, dans son dua. Il va le regretter un par un. Il va faire le nia. Allah va lui donner tawfiq d'être sincère. Allah va lui donner tawfiq d'être sincère dans sa requête, dans sa demande, qu'un tel point que les conditions, les trois conditions du tawbatun nasuha, du repentir sincère, seront absolument, sans le moindre doute, réunies lorsqu'un mu'min lève ses mains et demande pardon lors du wukuf Arafat. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est spécifique, c'est quelque chose qui est spécial lors du wukuf Arafat. Il est possible que même durant le mois de Ramadan, une personne demande tawba, mais le cœur n'y est pas. Mais quand vous êtes à Arafat, il est impossible, inimaginable de ne pas être concentré. Il est impensable qu'un musulman ne soit pas affecté par les rahamats, par les bénédictions qui descendent sur ces millions de gens lors du wukuf Arafat. Et cette bénédiction-là, lorsqu'elle pénètre votre cœur, elle fait sortir kalimatul haq, les paroles véridiques, les paroles sincères sortent du cœur. Même si ce ne sont pas de grandes phrases, même si on a amené notre Hizbullah Azam mais on l'a oublié dans le sac à l'hôtel à Makkah, peu importe. importe. Mais les doigts qui vont sortir de la bouche du musulman lors du wukuf à Arafat, ce seront des doigts inégalables. Ce seront des doigts qui ne sortiront, qui n'ont jamais été, qu'on n'a jamais pu prononcer jusqu'à maintenant, et peut-être qu'on ne prononcera plus jamais tant qu'on ne reviendra pas à ce même endroit au wukuf à Arafat. C'est pour ça, mes chers frères, que le hajj, c'est vraiment exceptionnel. C'est une action qui dépasse n'importe quelle ibadat qu'un musulman peut accomplir. Et la consécration, la récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que « wal hajjul mabrur » Le hajj qui a été agréé par Allah. Là, bien sûr, ça nous fait comprendre qu'il y a des conditions, il faut respecter les règles, les masa'il sur le hajj. Le hajj qui a été agréé par Allah, « laysa lahu jaza'un illa al-jannah » La récompense du hajj, c'est quoi? C'est la promesse du paradis. On va dire que oui, mais on aurait pu trouver une meilleure métaphore, on aurait pu trouver quelque chose de plus magique que simplement dire illa al-jannah. Mais est-ce que c'est pas ça l'objectif du musulman? Est-ce que c'est pas pour ça que je me lève le matin salatul fajr? Est-ce que c'est pas pour ça que je fais mes 5 prières quotidiennes? Est-ce que c'est pas pour ça que je respecte mes parents? Est-ce que c'est pas pour ça que je vis qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati li lillahi rabbil alamin? Notre vie, c'est quoi? C'est une recherche permanente du contentement d'Allah. La recherche de l'agrément d'Allah qui a comme aboutissement l'obtention du paradis. Et cette obtention du paradis, le raccourci le plus simple pour y accéder, le prophète dit que le hajj mabrour, le hajj accepté par Allah, laysa lahu jaza, il n'y a rien d'autre qui ne pourra gratifier, qui ne pourra récompenser le hajj accepté par Allah, si ce n'est al-jannah, illa al-jannah. Et ces deux mots de récompense sont amplement suffisants pour que le pèlerin ressente de la joie dans son cœur. Mon hajj accompli, avec sincérité, avec un argent qui est pur, agréé par Allah, assurément, j'ai la promesse du paradis de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quel honneur que d'aller au hajj, lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam explique que celui qui va au hajj, il fait partie des wafdullah. Le wafd, c'est quoi? C'est les invités d'Allah. Si demain une personne reçoit une invitation de la part de tel responsable, de tel parti politique, ou tel prince, ou tel, je sais pas, tel président, ou il reçoit une décoration, Légion d'honneur, ou l'ordre du mérite, etc., etc., on est convoqué par le préfet, quelle fierté qu'il va avoir de déambuler sur le podium et de se voir accrocher cette médaille. Il est content, il est fier. Ça, c'est insane, c'est humain, ça. Maintenant, pensez que lorsque le hadith dit que Al-Hujjaju wal-Umar wafdullah, ce sont les invités d'Allah. C'est-à-dire que parmi toute la Umma, Allah Ta'ala a sélectionné cette année, il y aura telle personne de tous les 5 continents qui feront partie de mes invités. Ça, c'est un sharaf, ça, c'est un honneur de la part de qu'Allah nous accorde. À nous de faire les actions qu'il faut pour avoir cet honneur, pour être choisi par Allah subhanahu wa ta'ala pour aller auprès de sa maison durant cette période. Et regardez comment il suffit de très peu de choses, d'un minimum d'effort quand on est là-bas. Le tout, c'est quoi? C'est d'être là-bas. Le tout, c'est pendant le hajj, il ne faut pas être ailleurs. Il faut être à Makkah, à Mina, à Arafat, Muzdalifa. Mais il faut y être. Parce que quand vous y êtes, quand vous êtes là-bas, il suffit de faire, vous levez le petit doigt, et j'exagère sur ma métaphore, vous levez le petit doigt et Allah accepte ce que vous demandez. Le moindre effort que le pèlerin va faire, c'est incomparable avec une nuit de ibadah d'un musulman qui est dans son pays natal. Lorsque le prophète dit que in da'awhu ajabam, yani, il suffit que le pèlerin lève ses deux mains. Il demande quelque chose à Allah, ajabahum. Le jawab ou shart, il vient immédiatement. La réponse dit que s'il demande, ajabahum, Allah Ta'ala exauce immédiatement les requêtes du pèlerin. Et c'est pas terminé. Wani staghfaruhu ghafara lahum. Il suffit que le pèlerin dise, oh Allah, pardonne mes péchés. Astaghfirullah. Allah pardonne immédiatement les péchés de ce pèlerin. Et on a dit que même les guna kabira seront pardonnés, inshallah, le jour Arafat. Parce que, on répète ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que Arafat, il y a une telle magie, il y a une telle sakina, une telle quiétude, une telle rahma, une telle bénédiction qui descend, qu'il est impossible qu'un cœur ne devienne pas sincère au moment d'Arafat. Il est impossible qu'un musulman ne regrette pas ses péchés le jour d'Arafat et ne prenne pas des résolutions. Et quand on regrette les péchés et quand on prend les bonnes résolutions, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a fait un tawbatun nasuha, que le repentir est sincère et qu'il sera agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et même au-delà du fait qu'Allah exauce les doigts et le istighfar du pèlerin, le prophète continue. Le prophète a demandé ce doua, Allahumma ghfir lil hajj wa liman istaghfara lahu al hajj. Oh Allah, pardonne aux pèlerins. Ça, on a dit. Et également, aux personnes pour lesquelles le pèlerin va demander istighfar. Si le pèlerin dit, Wallah, pardonne à mon papa, pardonne à mon frère, pardonne à ma soeur, yani, les gens pour lesquels le pèlerin fera intercession le jour d'Arafat ou pendant son hajj, Wallah, pardonne telle, telle personne, à ces gens-là également, Allah Ta'ala, pardonnera. Ça, c'est la puissance du dua, la puissance du istighfar du pèlerin. Si on avait encore un peu plus de temps, on se serait approfondi sur les différentes étapes du Hajj, Muzdalifa, Arafat, etc., etc. Mais ces étapes-là, on va dire que c'est un peu plus technique. Cela va concerner d'une manière un peu plus directe les personnes qui vont aller au Hajj. Mais il faut savoir que quand on est à Makkah, quand on fait le Safa Marwa, quand on est sur la monture, quand on est à Arafat, quand on est en train de lapider les stèles, quand on se rase la tête, mes chers frères, c'est ce qu'on a dit, que c'est un ibadat. On dit le Hajj, c'est quelque chose, c'est un pilier. Mais il y a plein de facettes, tous ces petits a'mal qu'on a cités, et plus encore, tout cela procure un degré de spiritualité au mu'min. Cela absout les péchés. Le prophète me dit que quand un pèlerin il se rase la tête, il n'y a pas un cheveu taqa'u fil ard illa kanat laka nuran yawm al-qiyamah, que chaque brin de cheveux qui tombe, c'est une lumière pour ce pèlerin le jour de qiyamah. Et dans d'autres versions, chaque cheveu qui tombe, c'est un péché qui sera absous, qui sera pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est en résumé, mes chers frères, l'importance du hajj, hein, la puissance de cette action. Comme l'a dit, le mot, l'adjectif qu'on doit retenir, c'est le caractère exceptionnel. Donc celui qui a la chance, hein, le tawfir de la part d'Allah d'aller faire le hajj cette année, c'est une chance exceptionnelle. Qu'on prenne conscience du cadeau qu'Allah nous a accordé, qu'Allah nous accorde, qu'on fait partie de la délégation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'a jamais pu y aller, mes chers frères, c'est inacceptable. C'est impensable qu'il y ait des gens qui consacrent un budget annuel pour aller en Malaisie, pour aller en France, pour aller je ne sais quel endroit du monde. Le siyaha, le voyage d'agrément, n'est pas interdit. Dans le Coran, Allah même dit afalam yasirou fil ard. Allah encourage l'être humain à aller dans différents pays, à aller méditer sur la grandeur de la création d'Allah. Quelqu'un veut aller en Amérique, il veut aller voir les canyons pour faire dhikr, pour penser à la grandeur d'Allah, qui le fait? Quelqu'un veut aller en Ouganda voir les chutes de, je sais pas, Niagara, je sais pas quoi, qui le fait? Il n'y a pas de souci. Ça, c'est ibadat aussi, ça. Contempler la grandeur d'Allah par le biais de sa création. Mais attention, celui qui consacre son argent ou son temps à autre chose, à un autre voyage, alors même si c'est un voyage à but spirituel, mais s'il n'a pas accompli son hajj et que la mort survient, cette personne est dans l'erreur. Donc pour celui qui n'a pas fait le hajj, qu'il prenne conscience, que nous prenons conscience que c'est un devoir et qu'il y a une mine de récompense à avoir à travers ce hajj. Et celui qui est parti une seule fois, qu'il renouvelle son niyya. Comment est-ce qu'un musulman peut vivre loin de la Kaaba? Ça, c'est inimaginable. Parce que l'amour pour la Kaaba, l'amour pour Makkah, c'est un doua de Ibrahim alayhi salam pour chaque mu'min. Et l'amour pour Madina Munawwara, c'est un doua du prophète alayhi salatu wassalam. Nous devons ressentir l'amour de ces deux endroits magnifiques dans nos cœurs, et c'est un moyen de tarbiya. Celui qui va au hajj ou qui va au umrah, qui amène ses enfants également, ça permettra à ses enfants de voir la grandeur d'Allah. De voir que dans le monde entier, il y a des gens qui posent le front sur le sol comme je le fais. C'est pas juste une coutume. Parfois à travers les médias, on entend plein de choses sur les traditions musulmanes. Mais non, dans le monde entier, il y a des gens qui se prosternent 5 fois par jour devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous accepte, on a dépassé le temps. Qu'Allah nous accepte de tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique, et qu'Allah facilite le hajj de nos frères, et nous donne tawfiq également d'y aller. Subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.